Hello, c'est Romain de 6ème Science, une petite pub, et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vous écoutez 6ème Science. Ils payent pas de mine comme ça avec leur gueule de ballon de clown ou de ressort magique pour gosses, mais vous savez comme moi qu'il faut pas juger un podcast à sa cover. En l'occurrence, je parle pas de podcast, mais de robot mou. Et sachez que développer un robot mou, c'est super dur. D'une part, parce qu'ils doivent être miniaturisés, hein, si on veut qu'ils puissent intervenir sans endommager le terrain ultra fragile qu'est le corps humain. D'autre part, parce qu'il faut pouvoir les piloter dans nos organes et nos vaisseaux sanguins. Deux obstacles de taille que la robotique molle s'apprête à surmonter, boostée à la fois par les progrès de l'impression 3D et l'invention de nouveaux matériaux. Mon invité, lui, n'a rien de miniaturisé ni de robotique. Les auditeurs de 6ème Science connaissent bien le très humain, jusqu'à preuve du contraire, Arnaud Devillard, expert IA et high-tech de Science et Avenir. Bonjour Arnaud.
Je suis parfois mou, mais bonjour.
J'ai pas osé la faire. Ce que je vais oser faire, c'est un erratum par rapport à cette introduction, puisque tout à l'heure, quand je t'ai accueilli dans les studios, tu m'as bien précisé que les robots mous n'étaient pas que mouniatures, mais qu'ils pouvaient être taille réelle plutôt.
Oui, effectivement. Dans le sujet qui nous occupe, on va parler de robots qui sont par définition miniaturisés, mais parce qu'on parle de santé de corps humain. Ce type de création artificielle d'engins peuvent être beaucoup plus grands, oui.
Comment est né ce concept de robot mou? C'est vrai que dans l'imaginaire, et on continue de les voir encore, hein, les robots qui sont développés de droite à gauche des États-Unis au Japon, c'est en gros de la mécanique, de l'informatique, de l'électronique, mais c'est surtout quelque chose de rigide, de dur. Là, la robotique molle, je t'avoue que c'est la première fois que j'entendais ce terme en le lisant dans ton dossier.
Oui, alors c'est pas nouveau au sens, ça date pas d'hier ou d'avant-hier, mais c'est surtout les progrès de l'impression 3D, comme tu as dit dans l'intro, qui ont permis deux choses à la fois, d'imprimer des matériaux tout simplement, d'imprimer au lieu de faire un peu toujours les mêmes choses en métal, en bois ou autre. Tout d'un coup, on s'est mis à créer des matériaux un peu nouveaux, ça peut être des textiles, des polymères, etc. Et surtout, l'impression 3D, c'est beaucoup plus facile d'expérimenter pour le chercheur. Et quand je dis facile, c'est à la fois, on va dire, du point de vue technique et du point de vue financier. Mmh. C'est-à-dire que s'ils ont une idée d'un concept, qu'avant, ils auraient juste couché sur le papier, là, ils peuvent la tester plus facilement, faire des tests, des retests, modifier un peu la machine, sans que ce soit lourd, en fait, à faire. Mmh. Donc, c'est un peu la convergence de ces deux choses qui ont permis d'avancer en la matière.
Effectivement, je me dis que l'impression 3D a ce côté-là où tu peux très vite prototyper, donc tu passes de l'idée au concept. Mais arrêtons-nous quand même sur le concept, puisqu'il y a eu, j'imagine, une difficulté majeure par rapport à ce projet d'article autour des robots mous, c'est de décrire à quoi ils ressemblent. Moi, j'ai pris le parti d'en faire des ballons de clown qu'on peut tordre dans tous les sens pour les faire passer éventuellement dans certaines parties, on va dire, inextricables du corps humain. Ou je pensais au ressort escalier, tu sais, les ressorts, oui. Je crois que c'est le Slinky,
oui.
un ressort pour enfants, tu le balances dans un escalier, il descend toutes les marches.
Seul.
Et c'est vrai que sur les pages de Science et Avenir, c'est quoi? C'est le numéro 919, hein, si je n'ai pas de bêtises. Il y a quelques illustrations qui collent à ces images, mais d'assez loin.
Alors oui, c'est très difficile parce qu'effectivement, dès qu'on parle de robot, on a assez vite une image un peu anthropomorphe, en tout cas quelque chose qui ressemble soit à un véhicule, soit à une bête. Donc, pattes, des roues, un corps, quoi.
Un bras articulé.
Ou un bras, simplement, un bras préhensible, une pince, un bras articulé en usine, voilà. Le robot, c'est ça, quoi, dans l'imaginaire collectif et même,
Dans
la réalité, quoi. Mais effectivement, décrire un robot mou, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'articulation, il n'y a pas d'éléments rigides, par définition. Et donc, il faut imaginer des principes de locomotion, c'est-à-dire que c'est des machines qui avancent. Hein. L'idée, c'est quand même que ces machines aient un rôle, on va dire, soit préhensible, soit de locomotion, se déplacent toutes seules, comme des robots, quoi. Fassent des choses que l'humain ne fait pas. Ils ne sont pas pilotés à distance. Eh bien, il faut imaginer des principes qui sont inspirés de la nature. Donc, quand on parle robot mou, il faut imaginer, par exemple, des plantes, un ver, un asticot, même des ailes volantes. Il y a beaucoup de choses très, très variées, qui sont très peu intuitives pour des gens qui sont... y compris moi, c'est-à-dire que moi, j'en découvre tous les jours, et chaque fois, je dis « Ah oui, mais c'est pas bête !» Parce qu'en fait, ce qui est marrant avec le robot mou, c'est qu'on n'aurait jamais eu l'idée tout seul de développer ou d'imaginer quelqu'un et l'idée de développer ça, mais quand on voit et qu'on comprend le principe, tout tombe sous le sens, quoi.
Ouais.
Il y a un principe que je trouve assez génial, c'est quelques années, je ne sais plus quelle équipe avait présenté ça. Vous imaginez une balle un peu anti-stress, par définition c'est mou, une balle en silicone, qui était remplie de granules à l'intérieur. Et en fait, elle était reliée à un système qui faisait le vide. Cette boule était accrochée à un bras articulé. Elle s'approchait d'un objet qu'elle voulait saisir. Donc, comme elle est molle, elle enveloppe l'objet. Et une fois qu'elle a enveloppé l'objet, le vide est fait à l'intérieur. Donc, elle se resserre sur l'objet et il n'y a plus qu'à relever le bras et elle a pris l'objet. Donc, vous aviez tout d'un coup de la boule où passiez à la pince. Et après, pour relâcher l'objet, ben, vous remettez
il fallait regonfler
de l'air dans la boule et l'objet retombait. Donc voilà, c'est ce genre de choses. Quand on voit ça, on dit mais ouais, c'est génial. Enfin, c'est génial au sens, ça tombe sous le sens.
C'est ça, sans prendre le risque.
Sans prendre le risque de casser l'objet, exactement, de le distordre. Alors, c'est le principe des robots mous, c'est de pas abîmer et de pas créer de la friction qui serait dommageable pour telle ou telle raison.
Ouais, il y a un autre modèle que j'ai vu, c'est une sorte de serpent. En fait, ça ressemble plus à un emballage de paille individuelle qu'on soufflerait. Ce serpent, en gros, pourrait s'insinuer entre les décombres, justement, d'un bâtiment qui se serait effondré pour les explorer afin de repérer éventuellement une victime encore en vie, les signaler au secours, etc.
Oui, c'est des principes qui avaient été développés notamment à Stanford. Et c'était des espèces de serpents qui même se gonflaient légèrement, donc qui pouvaient légèrement hisser quelque chose pour pouvoir dégager une autre chose prisonnière quelque part et qui, comme tu disais, peut se glisser un peu partout, là où déjà aucun humain ne peut aller et là où aucun robot traditionnel ne peut aller. C'est pallier les inconvénients et les limites d'autres robots. Des petits rovers, aussi petits soient-ils, ou des robots humanoïdes qui ont leur efficacité, mais qui, dans certaines circonstances, ont du mal à être utilisés.
Mais notamment, c'est ça, sur un terrain qui n'est pas ultra plat, type une salle de fitness.
C'est ça.
Ils sont un peu en difficulté, alors qu'un robot limace aura un peu plus d'aisance.
Tous ces robots, effectivement, répondent à des principes un peu différents. Il faut vraiment oublier l'idée de locomotion habituelle, un moteur, batterie, bras articulés, jambes, tout ça, il faut oublier, c'est pas du tout comme ça que ces outils fonctionnent. Là, on joue sur des facultés de certains matériaux, on joue sur le magnétisme, on joue sur la réaction à la chaleur, la réaction à l'air, il y a plein de choses très très différentes et qui, encore une fois, s'inspirent de ce qu'on voit dans la nature et qu'on essaie de reproduire.
On a abordé très brièvement la question du déplacement et c'est vrai qu'en illustration de ton dossier, on voit un robot assez bizarre, qui ressemble un peu à une toute petite arche, vraiment miniature, un petit pont miniature. Mais celui-ci se déplace par petits sauts, un peu comme les puces qu'on avait, c'est ça, au collège. On appuyait dessus, elle se pliait, se contorsionnait, et d'un coup, pop, elle bondissait. Tu peux nous en dire un peu plus, nous expliquer un peu comment ça fonctionne ?
Ouais, il faut voir ça, une espèce de timbre-poste en silicone, et effectivement qui est recourbé, c'est-à-dire qui fait comme un pont. Alors il y a des tas de matériaux combinés à l'intérieur, dont des filaments de cuivre qui réagissent à l'électricité. Et donc l'idée, c'est de stimuler ces petits filaments, de faire bondir cette structure alors qu'il y en est l'élastomère. Les petits filaments sont donc des cristaux liquides, enfin c'est très petit, et il y a une myriade de subtilités de matériaux à l'intérieur. Et l'idée, c'est qu'un champ électrique envoie donc une espèce de courant, on va dire. Alors, attention, il n'est pas branché. Et on stimule les fils qui sont coincés dans l'élastomère, et l'élastomère se tend et se détend, et fait faire des bonds, tout simplement, à cette petite structure. Les chercheurs le comparent au saut du guépard, ils essayent un peu de faire des images, mais parce qu'eux-mêmes ont été surpris de la performance qu'ils ont obtenue, c'est-à-dire que ce petit timbre-poste, il arrivait à parcourir en un saut 70 fois sa propre taille.
Ouais.
Et c'était assez impressionnant. Alors évidemment, là on est à l'état d'épreuve du concept, on peut imaginer plein de choses, mais c'est ce genre de choses qu'on peut trouver. Quoi.
L'élastomère, c'est quoi ? C'est du caoutchouc ?
C'est oui, c'est une espèce d'élastique, c'est des matériaux synthétiques souvent, plastique et élastique qu'on synthétise en labo, et souvent qui sont imprimés en 3D, selon un modèle qu'on a fait informatiquement.
Moi, j'ai pris le parti, en te suivant, je t'ai copié, de m'intéresser sur les robots mous avec une application médicale qui a tout l'air d'être le champ d'application principal, ou en tout cas avec le plus gros potentiel.
Oui, alors c'est intéressant parce que les robots mous, notamment les articles de recherche avec les principes que je viens de décrire un peu innovants, souvent, quelque part dans l'article, les chercheurs font miroiter un usage en médecine, en chirurgie, médecine, en traitement. Alors que ce n'est pas les seuls usages de ce type de robots. Et d'ailleurs, il y en a qui sont utilisés beaucoup en agriculture, dans tout ce qui est cueillette, par exemple, ou tri des végétaux, des fruits. Parce que, encore une fois, la structure molle d'une pince préhensible, par exemple, permet de ne pas abîmer les fruits, les légumes, etc. Donc ça, c'est déjà utilisé. En industrie aussi, dans les usines, y a des robots, il y a des machines. Alors, elles sont très bien, super performantes, sauf qu'en contact avec un humain, ça peut être dangereux. Mmh. Avoir une structure avec un embout, on va dire mou, une partie molle qui va être au plus près de l'humain, permet d'éviter tout simplement les accidents, de se blesser. Mais c'est vrai que les principes les plus innovants qu'on voit sont souvent envisagés, parce que c'est encore très 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 en amont. Mais
on est sur des preuves de concept.
On est sur des preuves de concept, exactement. Et souvent, l'idée, c'est même pas d'envisager un traitement proprement dit, c'est d'envisager que ce robot mou, on va le mettre dans le corps humain, pour, en gros, le faire naviguer dans le corps humain. Et en fait, c'est ça l'enjeu. C'est créer des structures molles qui puissent naviguer dans le corps humain, dans les vaisseaux, sans l'abîmer. Bien sûr. Parce que c'est ça le truc. C'est qu'on puisse enfin ne pas insérer dans un corps humain pour l'observer ou pour le soigner un instrument
avec des ongles aigus,
soit rigide, avec ce risque toujours d'abîmer les tissus, plus ou moins gravement, c'est pas le souci. Mais là, au moins, on n'a pas ce stress et cette angoisse d'abîmer la personne et le corps qu'on traite.
Ça continue de poser quand même une question importante. Tu fais rentrer un robot comme ça, mais il faut aussi le faire ressortir. Ah oui, il faut pas qu'il tombe en panne non plus.
Ça pose plein de soucis, parce qu'on peut déterminer des principes de locomotion, on va faire avancer telle chose, quelle est la taille d'une gélule, quelle est la taille de ceci, mais comment il revient, et puis aussi comment on le contrôle une fois qu'il est à l'intérieur du corps, qu'est-ce qu'il peut faire exactement, c'est-à-dire que est-ce qu'il peut poser un médicament, mais le médicament comment on fait. Alors des fois, c'est des engins qui servent juste à observer ou à ramener une info, ou dont le comportement dans le corps humain va donner une info. Voilà, la manière dont il va se comporter va donner une info qu'ensuite on va utiliser pour déclencher un autre traitement. Et il y a aussi l'idée d'envoyer ces petites structures pour déposer une molécule, donc un médicament quelque part, à un endroit précis, sans encore une fois avoir à envoyer une pince. Donc voilà, il y a plein de choses.
Un registre peut-être dans lequel ces robots mous sont particulièrement appropriés ou envisagés, c'est l'endoscopie, autrement dit, c'est l'exploration ou l'intervention au niveau de l'estomac. Or, aujourd'hui, on fait ça via une caméra qu'on passe dans la bouche. Alors bon, c'est pas une bêta-cam, c'est un long fil qu'on fait passer dans la bouche. Mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les différentes approches qui sont privilégiées dans ce champ assez restreint quand même, qu'est l'endoscopie ?
Oui, alors ça c'est intéressant. Vraiment là, on est dans l'outillage concret. Il y a même des sociétés qui se sont déjà lancées pour développer des outils d'endoscopie à base de structures molles, quoi. Alors là, il faut imaginer qu'il y a quand même quelque part une partie rigide qui va être contrôlée, on va dire, de l'extérieur pour mieux tenir la structure. Mais au bout, vous allez avoir un embout qui va être mou. Alors mou, c'est-à-dire que vous allez avoir un engin qui va progresser dans le corps humain, mais qu'on va pas être obligé de pousser comme ça. Voilà, c'est ça l'idée, qu'on va pas être obligé de l'extérieur d'enfoncer peu à peu dans les vaisseaux, dans les parties humaines forcément fragiles. On appelle ça les robovings. Alors les robovings, c'est quoi ? C'est au début, vous imaginez une chaussette qui est roulée sur elle-même et elle va se dérouler. Alors soit on injecte de l'air, qui va se dérouler peu à peu à l'intérieur du corps. Donc vous voyez bien le principe, c'est que personne pousse quoi que ce soit. La structure elle-même du robovings est molle. Soit c'est une pellicule de silicone, soit c'est polymère. Et donc ça se déploie comme ça au fur et à mesure. Et pour le rétracter, c'est pareil. On retire, on fait du vide par exemple, et hop, elle revient. Donc c'est vraiment un espèce de déploiement comme ça, tout simple.
Qui suit, quoi, qui n'est pas suit, forcément en ligne droite.
C'est ça, il n'est pas en ligne droite. C'est qu'en fait, l'idée aussi, c'est que comme c'est mou, c'est flexible. Ça se fait tout seul. On n'a pas besoin de réfléchir à une courbure, à est-ce que mon angle est au bon endroit, parce que ma pince est rigide. Voilà, il y a un angle, parce que des fois, il y a des pinces ou des outils qui ont des articulations, mais au niveau de l'articulation elle-même, c'est dangereux. Alors, là non, vu que c'est flexible, ça s'adapte tout simplement au corps, à la courbure des vaisseaux, des tuyaux humains. Vous avez ce genre de structure, vous avez une autre structure qui est assez innovante aussi, on appelle ça des tubes concentriques. Alors là, il faut imaginer, au lieu que...
Une perche à selfie, un peu, je crois.
C'est télescopique, c'est des tubes, encore une fois, qui sont souvent en silicone ou autre, donc mous, et qui sont rentrés les uns dans les autres et qui se déplient comme ça au fur et à mesure. Donc, ils sont de tailles différentes, ils rentrent les uns dans les autres. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que ces bouts de tuyaux, chacun peut être d'une courbure différente et inverse. Donc, selon comment on les aligne, soit la courbure est alignée, donc la courbure de l'un qui rentre dans l'autre, les deux courbures sont dans le même sens, donc on peut faire tourner la tige, soit on les tourne chacun dans un virage opposé, et là on retrouve une tige qui va devenir droite. Et on peut jouer comme ça, selon où on veut l'emmener dans le corps, on peut le contrôler là sans problème, et surtout, ce qui est intéressant, et des tests ont été faits, c'est qu'avec ce type de structure, on peut descendre très très loin dans la miniaturisation, et donc atteindre des zones du corps humain qu'on n'arrivait pas à atteindre avec d'autres outils, on va dire, plus classiques. Notamment là, je pensais à un projet qui travaillait sur l'observation dans les bronches, un bronchoscope, enfin c'est un odoscope pour les poumons, et ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient créer un outil dont le diamètre était deux fois moindre que les outils habituels des praticiens d'aujourd'hui, et on pouvait rentrer dans des parties des bronches qui étaient inaccessibles jusque-là aux outils. Donc il y a vraiment des usages concrets.
J'imagine que ça pose quand même de sacrés défis en matière de miniaturisation, de développer des outils aussi petits que cela, et surtout aussi flexibles ou mous, on l'a dit.
Oui, alors c'est l'intérêt de la robotique molle, d'un côté, c'est effectivement de pouvoir descendre très bas dans la taille, parce qu'à partir du moment où vous n'avez pas la contrainte de créer des membres ou des roues, d'intégrer une batterie, d'intégrer une puce électronique, ça fait de la place. C'est autant de place que vous pouvez gagner. Et donc, vous pouvez descendre très, très bas dans la structure. Alors après, l'idée, c'est d'atteindre une taille qui reste contrôlable et qui ne soit pas, en gros, ballottée ici ou là, soit dans le corps humain, soit selon l'usage qu'on veut faire. Mais l'idée, c'est ça, c'est de ne plus se soucier de la taille, finalement, d'aller au très grand, au très petit, sans qu'il y ait d'autres contraintes que la seule structure du robot elle-même.
Mais en soi, c'est pas un défi qui paraît insurmontable. Enfin, justement, là, tu dis qu'il gagne de la place, mais la contrainte quand même de le fait qu'il soit flexible, qu'il soit mou, et que c'est un nouveau terrain d'exploration quand même, hein, pour la robotique, c'est pas un défi technologique en soi. C'est plutôt, faut leur laisser du temps parce que la discipline est relativement jeune.
Descendre très bas en taille, c'est pas tant le souci. C'est plus la manière de le contrôler qui pose souci. Par exemple, effectivement, quand on a défini un concept, celui dont on parlait au tout début de notre intervention, de ce petit robot qui saute, le truc marche, c'est très petit, ça marche sans souci, sauf que maintenant, il faut essayer d'imaginer dans quel milieu on le fait, on se déplace. Et là, en gros, il faut redéfinir le concept. Tel qu'il est, ils ne peuvent pas le faire se déplacer dans l'estomac, par exemple. Le robot qu'on a inventé, où est-ce qu'on l'envoie, quoi, si on n'a pas
gros,
une idée précise à la base.
On a le produit, mais on n'a pas le cas d'usage.
Voilà. Autant les endoscopes, les robots Ving ou les tubes concentriques trouvent une application, autant tous ceux qui ont d'autres trucs très très nouveaux, là, des gelbots, là, qui sont des robots qui ressemblent à des limaces un peu, et qui se traînent comme ça un peu sur le sol, soit dans n'importe quel milieu, mais il faut après trouver comment l'utiliser. Mais par contre, la taille elle-même ne pose pas vraiment de soucis, quoi.
J'aimerais bien qu'on fasse une micro-parenthèse sur un robot que j'ai vu qui, lui, se déplaçait en réagissant à la chaleur.
Ouais, c'est un petit robot qui a été présenté assez récemment de l'université Johns Hopkins et qui ressemble à une espèce de grosse larve, voilà, mais un peu transparente. Donc, c'est fait ce qu'ils appellent des gels à base d'eau, donc des polymères, etc. Et en fait, le principe, effectivement, c'est qu'il réagit à la température. Donc, à des cycles de température, un milieu qui va monter en température, puis qui va redescendre, qui va remonter, qui va redescendre, et bien ça, ça va faire gonfler ou se rétracter ce robot gel. Et le fait qu'il va se rétracter ou gonfler va le faire avancer. Et la petite subtilité, c'est que les chercheurs, comme ils m'ont expliqué, c'est qu'ils peuvent, à la base, au moment où ils le fabriquent, où ils fabriquent le matériau, ils peuvent définir comment il va gonfler. Donc, ils peuvent définir comment il va se déplacer, c'est-à-dire s'il peut tourner à droite, à gauche ou aller tout droit. Ça, ils peuvent le définir en amont. Et ils m'expliquaient qu'effectivement, c'était ça la difficulté. La difficulté, ce n'était pas tant le concevoir ou de le faire très petit ou de concevoir elle-même la bête, mais de créer ce qu'ils appelaient une asymétrie dans cette structure.
Avant de le concevoir, il faut que tu saches comment tu veux le... Enfin,
c'est ça.
T'as l'itinéraire en tête, quoi.
C'est exactement ça. Et quitte à en créer plusieurs selon l'usage qu'on va faire pour telle ou telle intervention. Alors encore une fois, là, c'est un usage médical qui est envisagé, mais ils sont encore très flous sur l'usage médical en question, quoi. Ils imaginent qu'il peut rentrer dans le corps humain pour déposer un médicament. Mais par contre, ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'ils ont créé le principe... Donc un robot qui réagit à la température, mais on peut très bien imaginer un matériau qui fasse la même chose, mais qui réagit à une molécule, ou qui réagit à une température, mais qui serait un indicateur d'une maladie.
Ouais.
Donc ça serait un robot qui détecterait une maladie, tout simplement, ou qui détecterait des microbes. Et là, ça devient intéressant et ça devient très concret, là.
Oui, parce que le robot pourrait signaler, en gros, un cancer ou ce genre de choses.
C'est exactement ça. C'est par son comportement, alors non pas en envoyant une info par radiofréquence ou par caméra, non, son comportement même serait indicateur d'une maladie ou d'une infection dont souffre le patient.
On va continuer un petit peu dans les usages, mais on va vraiment rentrer encore plus dans le concret, puisque t'écris qu'en soi, les robots souples, ça on peut très bien le concevoir, sont moins précis que des robots rigides conventionnels, c'est-à-dire très mathématiques en quelque sorte,
hein,
vraiment le robot tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais que dans un milieu comme celui qu'est le corps humain, c'est-à-dire immobile et animé de plein de petits soubresauts, bah, finalement le robot mou est peut-être le mieux paré pour intervenir, mais que si on veut vraiment arriver au meilleur résultat, il faut peut-être tirer parti des deux, c'est-à-dire prendre le meilleur des robots mous et prendre le meilleur des robots rigides.
Alors, c'est ça que personnellement que j'ai trouvé très intéressant dans la réflexion autour des robots mous, c'est ça. C'est en gros, c'est à la fois précis et imprécis. Le concept de robot, c'est né dans l'industrie. Et dans l'industrie, ce dont on a besoin, c'est surtout de précision. Vous imaginez une chaîne de montage, on veut placer un boulon, il faut que ce soit précis. Donc, leurs tâches, leurs manœuvres sont très normées dans l'espace. Ça va aller, il y a des coordonnées qui sont précises, tout ça. Donc, ça, c'est...
Oui, si tu déplaces d'un millimètre
la
chaîne de montage ou la tâche, bah, ils vont visser dans le vide. Quoi.
C'est ça, exactement. Mmh. C'est exactement ça. Ce qui se passe en chirurgie ou en médecine, c'est qu'on a aussi des robots qui sont faits comme ça, plus ou moins, qui sont aussi lourds. On imagine les bras articulés, les bras de chirurgie qui sont pilotés par un chirurgien dans une autre pièce ou ça existe déjà. Le problème, c'est que le corps humain n'est pas aussi précis qu'une chaîne de montage. C'est que, comme tu l'as dit, même s'il est endormi, il y a des tas de mouvements qui ne sont pas programmés. Ce n'est pas une précision informatique. Et donc, du coup, c'est dur de savoir que, par exemple, la cage thoracique, elle va vraiment se soulever à tel endroit, à tel moment, de tant de millimètres ou de tant de micro-millimètres. C'est impossible à prévoir. Donc, si vous avez un robot rigide à cet endroit-là qui, lui, est paramétré d'une certaine manière, il peut tout d'un coup, paf, taper le corps humain ou la cage thoracique en question au mauvais moment. Ou au contraire, la rater. Parce que là, le mouvement qu'on anticipait n'est pas aussi loin qu'on pensait. Avec le robot mou, justement, on peut directement aller au contact du corps. Le mouvement du robot mou est relatif au corps humain. Et ça, c'est vachement intéressant parce qu'on peut toucher sans qu'il y ait de friction, finalement. Tout d'un coup, la structure molle qu'on va appliquer sur le corps humain, elle va suivre, tout simplement. Mais dans la moindre de ses subtilités, elle va suivre le mouvement que va faire le corps. On imagine, par exemple, quelque chose qu'on plaque sur le ventre ou dans un intestin, par exemple. Et ben, si cet intestin se tord d'une certaine manière, ben, le robot il va absorber le choc d'une certaine manière et continuer sa tâche sans aucun problème. Donc, c'est là qu'on voit très bien l'intérêt de la chose.
Mais tu couples ce robot mou à, du coup, un robot dur qui, lui, va assurer le travail de précision.
Alors, ça, c'est qu'en fait, quand on veut faire des instruments, il faut imaginer qu'on branche une structure molle, genre un embout, la partie qui va être au contact vraiment avec le corps humain, on la connecte à une machine qui, elle, va être plus rigide et qui va être pilotée, soit par informatique, soit manuellement, mais qui, elle, ne sera pas en contact avec le corps, mais qui va permettre presque de tenir le robot mou sans que le robot mou ne soit plus mou. En gros, c'est comme si on était à distance et qu'on maintenait le robot en place.
C'est comme un stabilisateur pour téléphone portable ou pour caméra, quoi.
C'est un peu ça. C'est l'outil vraiment qui va faire son travail, à savoir le robot mou. On ne touche pas. Il reste il est au contact du corps humain. Il fait ce qu'il a à faire. Mais de loin, on peut imaginer un praticien qui le tient parce qu'il y a
un
support. C'est exactement ça. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur les endoscopes. Les projets récents que j'ai vus sont faits comme ça. C'est-à-dire que vous avez cette partie endoscopique qui se glisse à l'intérieur du corps humain qui est molle. Mais en fait, à l'extérieur du corps humain, vous avez une machine un peu plus rigide qui tient tout ça.
Très clair. On continue avec des projets assez récents, mais plus si miniatures que ça, puisqu'on va s'arrêter sur les projets de l'Institut WISE. Est-ce que tu peux nous les décrire un petit peu, ces projets qui sont très librement inspirés de notre morphologie?
Oui, alors ça, c'est très intéressant. C'est un institut de l'Université d'Harvard qui est centré sur des applications en médecine. Et même, ils se définissent comme un centre de recherche en appareillage médicaux bio-inspirés. Donc vraiment, c'est la logique, c'est faire des engins mous, inspirés de principes de la nature pour des usages médicaux. Et effectivement, c'est des choses très étranges qui sont à la frontière entre le robot, la prothèse, parfois entre le muscle artificiel ou le nerf artificiel. Il y a une variété de projets, c'est assez étonnant. Alors, une de leurs dernières créations, c'est un exosquelette qui est dédié, alors je ne sais pas si nos auditeurs voient ce qu'est habituellement un exosquelette, c'est un peu le robot externe, quoi. C'est un peu normalement dans la logique, c'est une espèce d'armature, souvent qui est rigide, effectivement, et qui sert à aider les gens à marcher, les gens qui ont des problèmes moteurs.
Dans Avatar, ils en ont aussi,
oui,
mais c'est
voilà,
pas...
Avatar, dans...
c'est pour faire de la logistique ou tuer
ça.
Des...
Alors, soit c'est, effectivement, soit c'est dans le monde industriel où c'est pour démultiplier la force du manutentionnaire, il est la machine, en gros, la machine est autour de lui, et en médecine, voilà, c'est une espèce de combinaison qu'on revêt et qui accompagne le mouvement des jambes, des bras. Souvent, c'est une structure assez rigide.
Très lourde même.
Très lourde, ouais. Très lourde, effectivement. Bardée de capteurs et souvent un peu pré-paramétrée, donc c'est jamais très personnalisé, donc c'est très dur pour ceux qui les portent parce que ça respecte jamais vraiment leur manière qu'ils auraient, eux, de marcher. Mais là, cet institut, ce qu'ils font, c'est un exosquelette dédié aux membres inférieurs. C'est très précis. Hein. Membres inférieurs pour des gens, notamment, qui ont été victimes d'un AVC et qui sont en rééducation. Et c'est entièrement mou. Voilà, c'est une structure en polymère et qui épouse la forme des muscles, tout simplement, qui a été travaillée pour stimuler en fait, les muscles et aider le mouvement que ferait le patient et qui permet de porter le muscle, mais simplement avec une structure molle, en fait. Donc, il combine la vocation originelle de l'exosquelette avec une approche en robot mou qui se rapproche en fait, du corps humain, en fait, de ce qu'est censé faire le corps humain. C'est assez intelligent. Et tous leurs projets sont comme ça. Ils ont même créé une prothèse cardiaque, qui est une espèce d'étui qu'on glisse sur le cœur et qui aide le cœur à palpiter. Donc, il y a des mouvements comme ça de rétractation et d'étirement et qui entraînent le muscle cardiaque. Ils ont aussi des espèces de muscles qui ressemblent à la fois à un muscle ou à un ressort. En gros, c'est fait pour, encore une fois, stimuler un muscle. Donc, il faut imaginer quand même une espèce de paradrap qu'on colle sur un muscle. L'effet de ressort permet de contracter et étirer le muscle. Et à chaque fois, avec des matériaux flexibles.
Voilà, ça ressemble à des bandes de kinésio qu'arborent les triathlètes ou les coureurs, mais j'imagine un poil plus technique.
Et ça fait vraiment penser à ça. Alors après, c'est variable. C'est-à-dire que soit ils réagissent à la chaleur, soit ils sont stimulés à l'extérieur par du magnétisme, par exemple, par le principe de l'aimant, tout simplement. Il y a certains robots mous qui embarquent en eux des éléments métalliques, mais très, très fins. Des fois, c'est de la poudre, des fois, c'est des microparticules, des fois, c'est des filaments. Mais qui permet, de l'extérieur, selon les cas de figure, qui permet d'être piloté par un aimant sans contact avec le corps humain, donc à distance. Mais en gros, on survole le corps avec un aimant et on envoie un champ électrique dans l'aimant. Et hop, ça déclenche l'action du robot à l'intérieur ou sur le corps, là, comme dans les travaux
De façon non invasive.
De façon non invasive. L'essentiel, c'est ça. C'est l'aspect non invasif, effectivement.
J'aimerais bien qu'on revienne sur un terme que tu as utilisé plusieurs fois, c'est celui de polymère. C'est quoi ? C'est des produits qui sont fabriqués, c'est ça ? Alors, j'ai fait mes recherches avant, mais c'est à partir de macromolécules, de grosses molécules.
Oui, c'est des plastiques innovants. Enfin, c'est des catégories de produits totalement synthétiques qu'on fabrique en laboratoire. Alors après, on peut jouer sur telle ou telle molécule pour jouer sur la propriété du matériau. Alors, je ne suis pas spécialiste du matériau, mais effectivement, c'est comme ça que ça se passe. Polymère, en gros, il faut penser plastique.
Plastique mou, du coup.
Plastique mou, en l'occurrence, c'est plastique mou, exactement. Alors, des fois, ils sont combinés à d'autres éléments, alors des fois avec des minerais, des fois avec. Le nouveau truc, c'est les cristaux liquides ou les gels à base d'eau qu'on mélange avec des polymères. On utilise beaucoup de silicone aussi, alors souvent pour faire des enveloppes autour d'autres matériaux mous. Donc, déjà, le silicone, c'est mou, mais on s'en sert souvent pour envelopper une autre structure molle qui sera le robot lui-même. C'est souvent pour utiliser des matériaux qui seraient toxiques.
Oui.
Et là, en mettant du silicone, voilà, on
fait la,
on
c'est
protège.
La partie contact.
C'est la partie qui est en contact avec le chlore, et là, on permet d'utiliser quelque chose. Des fois, c'est des minerais ou des métaux, souvent, qui ne sont pas très sains, et là, on peut les utiliser sans problème.
Merci pour cette digression qui m'a fait du bien, parce que je voyais qu'on utilisait le terme de polymère, et je n'étais même pas trop sûr de savoir ce qu'il recouvrait. Bon, on a fait le tour quand même de pas mal d'innovations. Parmi celles-là, ou celles que tu n'as pas citées, hein, puisque tu ne pouvais pas faire 14 pages non plus sur ce dossier, peut-être laquelle t'a le plus impressionné ?
Alors, ça va être bizarre ce que je vais dire. Elle m'a dégoûté et impressionné. C'est un projet de l'Université de Hong Kong. Il faut imaginer une espèce de limace grise qui s'étire. Vraiment, c'est très peu ragoûtant, comme un espèce de boudin qui s'étire tout seul et qui se rétracte et qui avance comme ça en se rétractant, en s'étirant, en se rétractant. Qui peut s'aplatir, qui peut faire une espèce de copeaux et du coup attraper des choses, des fils de cuivre par exemple. Et ça, en fait, c'est un mélange de silicone et du minerai de borax, donc c'est un métal, et qui réagit au magnétisme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose qui est piloté, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, d'extérieur, par un aimant. Et on voit la chose, il y a des vidéos impressionnantes de ce... Je ne sais même pas comment le définir, j'allais dire ce truc, mais c'est péjoratif, mais en fait, en soi, c'est génial. C'est vraiment génial. On le voit faire, on voit les chercheurs le manipuler, donc avec un aimant, et on voit par exemple cet outil s'étirer très très longuement et attraper deux fils de cuivre, et tout d'un coup les rapprocher l'un contre l'autre et les coller. L'usage de ce type de choses est épatant. On le voit se glisser dans des interstices extrêmement fins, des endroits où aucun robot, aucune structure ne peut aller. On le voit se glisser à l'intérieur.
Et se recomposer derrière.
Et se recomposer derrière, surtout, exactement. Il n'a pas de nom.
C'est la limace de Hong Kong.
Je ne sais pas comment dire à nos auditeurs ou comment rechercher, mais à l'Université de Hong Kong, c'était l'an dernier, en 2022, je crois. Ça a fait pas mal de sensations. C'est impressionnant.
J'essaierai de vous trouver le lien et promis, cette fois, je le ferai. On le mettra dans la description, si je le trouve. Si je ne le trouve pas, je mettrai dans la description que je ne l'ai pas trouvé. Gros échec. Sinon, écoute, merci déjà Arnaud. Hein, c'était notre épisode de rentrée. J'étais ravi de l'ouvrir sur un sujet auquel je ne savais rien du tout avant d'ouvrir ton dossier. Donc, c'est une bonne rentrée de mon côté aussi. J'apprends plein de choses avec cet épisode. Quant à moi, je vous donne rendez-vous comme d'habitude. Hein, ça y est, on est reparti sur notre train habituel. Dans 10 jours, pour un nouvel épisode de 6ème Science, où on enverra de la science dans tous les sens.
Think of your favorite one-hit wonder.
Or that overpriced toy your parents would never let you have.
Or that TV show that no one else remembers because it was canceled way too soon. Now what if we could fix it? I'm Francesca Ramsey.
And I'm DeLon Grant. And after 20 years of friendship, we are now hosting a new nostalgia podcast called Let Me Fix It.
Each episode, we'll dig into our favorite celebrities, shows, and brands of yesteryear, and then imagine what it would take to repackage them for relevance today.
Think of our show as an intervention, but with way less stakes.
So subscribe to Let Me Fix It wherever you get your favorite podcasts.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode ? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.